CQFD.
L'actualité des sciences de ce mardi se base donc sur le chat de dessin animé Hello Kitty. Ça me fait vraiment rire. Hein,
je savais que ça vous ferait plaisir. C'est un peu pour ça que je l'ai fait d'ailleurs. Comme ça, ça vous change pas de vos lectures habituelles. Enfin, bon. Alors oui, ça se base sur Hello Kitty et aussi sur les émoticônes. Hein, vous Stéphane, et moi aussi d'ailleurs, hein, lorsque vous terminez un SNS positif qui amène une nouvelle sympa, vous ajoutez de temps en temps deux points, fermez la parenthèse. Hein, ça vous fait un joli sourire. Mm-hmm. Si le SMS est plutôt négatif, vous terminez toujours par deux points, mais ouvrir la parenthèse, là on voit que vous faites un peu la gueule, tout le monde comprend ça. Mais les Asiatiques, eh bien, ils ne font pas la même chose. Content, ça se signale par circonflexe, un tiret, circonflexe, hein, ça nous fait deux yeux qui, hein, puis une bouche plate, et pas content par T majuscule, tiret, T majuscule. Vous visualisez tout ça, quoi.
Ouais, content, circonflexe, tiret, circonflexe, ouais, ouais,
et pas content,
T majuscule, tiret, T majuscule.
Ah, d'accord. Il y a quelque chose à remarquer là-dedans. Chez nous, les Occidentaux, c'est la bouche qui change de forme pour exprimer telle ou telle émotion.
Smiley, je
sais. En haut ou en bas, enfin voilà. Et les yeux, eux, c'est juste deux points, quoi. Et chez les Asiatiques, ce sont les yeux qui changent. La bouche, c'est toujours un tiret inexpressif. Et c'est cette différence d'expression des émotions par le visage, hein, les Asiatiques par les yeux, nous par la bouche, c'est cette différence qui est à la base d'une étude qui a été menée conjointement en Angleterre, en Italie et au Japon et qui a été coordonnée par l'Université de Fribourg, une étude qui vient d'être publiée dans la revue Current Biology Magazine.
Et quel est le rapport avec Hello Kitty ?
Deux. D'abord, ce chat a été créé par un Japonais, Yukio Shimizu, et vous aurez peut-être donc remarqué que ce chat n'a pas de bouche, même s'il est censé apporter des émotions à son public. Ensuite, deuxièmement, rapport avec Hello Kitty. L'étude s'est justement penchée sur ce public, même encore des plus jeunes, des très très jeunes enfants, pour voir la manière dont ils interprètent les expressions faciales.
Et pour parler de tout cela, nous sommes en direct et en ligne avec Roberto Caldara. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au laboratoire de neurosciences visuelles et sociales de l'Université de Fribourg. C'est vous qui avez coordonné cette étude. Sylvio Dolzan a cité l'exemple des émoticônes pour expliciter finalement cette différence entre dans l'expression et le décodage des expressions émotionnelles faciales. Il y en a d'autres, je crois,
d'exemples.
Oui, effectivement, en dehors d'Hello Kitty, nous avons plusieurs exemples de différences culturelles indirectes qui montrent que, en fait, les Japonais utilisent beaucoup plus les yeux que la bouche. Par exemple, au Japon, souvent, les rires sont cachés. Les gens mettent la main devant la bouche. Les Japonais aussi sont les plus gros consommateurs de masques chirurgicaux pour se protéger, par exemple, des germes.
De la pollution, oui.
Ouais, et de la pollution. Mmh. C'est le pays qui consomme le plus de ces masques chirurgicaux. Ils ne portent pas beaucoup de lunettes de soleil. En fait, dans la culture manga, les lunettes de soleil sont souvent associées avec les personnages qui sont louches. Qu'est-ce que ça veut dire? Le personnage qui est louche, c'est un personnage pour lequel il est difficile de décoder les émotions. Mais aussi, il y a un dicton populaire, c'est que, par exemple, ils disent qu'on ne peut pas mentir avec les yeux, mais on peut mentir avec la bouche. Parce que la bouche, on le sait, physiologiquement, les muscles qui contrôlent la bouche sont plus facilement manipulables par notre cerveau par rapport à ceux qui manipulent les yeux.
Et donc, il y a vraiment une différence culturelle avérée par de multiples exemples, mais est-ce qu'il y a aussi une différence physiologique, justement? Parce que si c'est plus facile de bouger, de contrôler les muscles autour de la bouche que des yeux, ça nous paraît évident, mais chez les Asiatiques, c'est différent? Ils sont plus habiles avec les muscles autour des yeux?
Non, ils sont pas plus habiles que nous, c'est-à-dire physiologiquement, la structure est la même, mais ils les utilisent beaucoup plus et de manière beaucoup plus différentielle que dans notre culture. C'est-à-dire que ils vont bouger la région des yeux pour véhiculer les expressions faciales de manière beaucoup plus distincte à travers les différentes émotions que nous. Nous utilisons la bouche pour distinguer les différentes émotions beaucoup plus qu'eux.
Alors tout cela vaut pour des adultes, mais votre étude a porté sur des enfants, même très jeunes enfants, puisqu'ils avaient 7 mois en moyenne. Quelles expériences avez-vous menées?
Ben, nous avons montré à ces bébés ou aux jeunes enfants de 7 mois nous avons montré des visages avec des différentes expressions faciales. Nous avons mesuré leur mouvement oculaire, c'est-à-dire que nous avons pu regarder là où ils regardaient. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que les enfants, dès 7 mois, dès cet jeune âge, c'est l'âge vraiment dans lequel le système visuel devient précis, hein, et les enfants voient comme les adultes. Ben, à ce moment-là, les jeunes enfants japonais regarde beaucoup plus les yeux pour décoder les émotions par rapport aux jeunes européens. Et les jeunes bébés européens regardent beaucoup plus la bouche pour faire exactement la même tâche. Ce que ça veut dire, c'est que le système, déjà à 7 mois, est calibré pour le codage, pour décoder les expressions faciales de manière appropriée pour la culture dans laquelle les enfants ils le vivent.
Ouais, donc ça veut dire que la manière de lire les expressions d'un visage est innée, elle dépend de l'endroit, de la culture dans laquelle on est, tout simplement.
Voilà, c'est ça. On pense que le système, au départ, est le même, mais qu'il apprend très vite à décoder les expressions dans la culture pour laquelle, dans la culture de laquelle l'enfant il interagit. C'est-à-dire que probablement, c'est, les enfants ils voient au Japon que leur mère transmet les émotions de manière beaucoup plus accentuée dans la, par la région des yeux, et ils apprennent à lire correctement ces émotions en regardant beaucoup plus les yeux que la bouche.
Roberto Caldara, si un enfant émigre avec ses parents et vit assez longtemps dans l'autre culture, est-ce que vous pensez qu'il peut s'adapter et changer sa façon de lire les expressions faciales ?
Oui, oui, tout à fait. Nous avons une étude en cours, en fait, avec des adoptés coréens qui sont venus, enfin, qui ont été adoptés très tôt en Suisse, à l'âge de 2 mois, entre 2 mois et 6 mois. Et ce qu'on a pu constater, c'est que ces adultes, hein, puisque maintenant c'est des adultes qui ont grandi en Suisse, qui sont culturellement suisses mais génétiquement asiatiques, eh ben ils présentent des mouvements oculaires qui sont exactement identiques que les Européens. Ce qui veut dire que nos différences sont vraiment les différences qu'on a montrées sont vraiment culturelles et pas génétiques.
Si on en revient quand même un tout petit peu à Hello Kitty, parce qu'on a commencé par cela, bah ouais quand même. Alors hier évidemment j'ai préparé très très sérieusement, donc j'ai regardé des centaines d'Hello Kitty.
Il y a tout le bureau qui s'est moqué de Silvio et voilà. Qui était très jaloux.
Franchement, à part les rares fois où ce chat cligne d'un œil éventuellement, il a toujours ses deux yeux ronds totalement inexpressifs et comme il n'a pas de bouche, moi très franchement je peux extrapoler un sentiment uniquement grâce à ce qu'il y a autour dans le dessin en fait. C'est ça qui me dit il est joyeux, il est triste, etc. Pour nos enfants, est-ce qu'on sait si c'est la même chose ?
Oui, on pense que c'est la même chose, parce qu'autrement, ils ne pourraient pas décoder les histoires, et puis Hello Kitty n'aurait pas ce succès qu'elle a. Mais ce qui est intéressant pour nous, d'un point de vue scientifique, c'est que ça montre que, effectivement, le contexte aide beaucoup dans le décodage des expressions, des émotions, et ça prouve aussi qu'en même temps que la bouche n'est pas si critique pour, contrairement à ce qu'on pense dans notre culture occidentale, la bouche n'est pas si critique pour décoder les expressions faciales.
Et les enfants japonais, eux, est-ce qu'ils voient Hello Kitty sans décor autour ? Est-ce qu'ils sont capables de déterminer un sentiment quelconque ?
Ça c'est une question intéressante. Nous n'avons pas testé ça, mais je dirais que je ne m'attendrais pas à avoir d'énormes différences à ce niveau-là, puisque les deux populations réussissent à décoder les histoires d'Hello Kitty de manière appropriée. Je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de différence à ce niveau-là.
Est-ce que c'est aussi pour ça, en fait, je me pose la question maintenant, que dans la plupart des dessins animés, les mangas, les choses comme ça, japonais, donc les yeux sont toujours énormes.
Exactement, oui, c'est ça. C'est-à-dire que les yeux dans les mangas, vous avez tout à fait raison, sont très très grands et très très expressifs. Pourquoi ? Encore une fois, parce que dans la culture japonaise, c'est la région du visage qui est la plus critique pour transmettre et décoder les émotions.
Moi, j'étais amoureux de Candy quand j'étais petit. Je ne sais pas si vous avez connu Candy.
Oui, bien sûr.
Ouais, vous avez connu Candy, Roberto Caldara.
Oui, oui.
Ouais. Une jolie fille blonde, hein, donc rien de japonaise a priori, mais c'est vrai qu'elle avait des yeux énormes.
Oui, c'est ça. Voilà. Exactement. On voit ça très bien dans tous les mangas, en fait. C'est vraiment un trait général. Ouais. C'est que les yeux sont énormes. Et c'est là vraiment où le signal est vraiment le plus prépondérant dans la culture japonaise.
Est-ce que vous envisagez de faire aussi cette expérience une fois avec une autre culture ? Je sais pas, on peut penser aux cultures africaines ou des choses comme ça.
Oui, tout à fait. C'est purement pour des raisons pragmatiques d'infrastructure que pour le moment on a dû mettre ça de côté. Mais c'est vrai que plusieurs fois on a pensé à aller tester des tribus africaines comme les Himba par exemple en Namibie, qui n'ont pas encore beaucoup de contact avec les médias et la culture occidentale, pour voir effectivement si ils auraient des patterns qui sont complètement différents par exemple par rapport aux Asiatiques et aux Européens. Mais c'est pour des raisons purement structurelles et pragmatiques de coûts et d'infrastructures en fait qu'on n'a pas fait ça pour le moment, mais c'est vraiment une idée qui nous tient à cœur.
Il y a Jean-Claude Gailly qui est en régie, on va terminer avec ça, qui se demande si, alors on a ces deux cultures hein, asiatiques qui expriment les émotions davantage à travers les yeux, et nous, ici en Europe, à travers la bouche, dans le monde, disons, occidental, on arrive à exprimer les mêmes choses, au final. Ça passe pas par le même vecteur, mais au final, tous les types d'émotions sont exprimés.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les boîtes, les catégories sont les mêmes. Enfin, la joie, la peur, etc., ben, sont les mêmes. La catégorie est la même. C'est vraiment la transmission du signal qui est différente. On pourrait penser, par exemple, à deux langues différentes, mais ouais, c'est peut-être extrême. C'est vraiment des subtilités. Hein. Mais les catégories sont les mêmes, oui.
Merci beaucoup Roberto Caldara, professeur au laboratoire de neurosciences visuelles et sociales de l'Université de Fribourg, coordinateur donc de cette récente étude sur le décodage des émotions faciales.
Avec qui dit la vie chante, et pour qui dit elle est accueillante.
Circonflexe-circonflexe, je suis heureuse avec Kitty.
Bah,
j'avais envie de quand même la placer, non?
Vous avez bien fait.
Voilà.
Comme ça, heureux. Mais ça, c'est fait.
Bon, allez.
CQFD sur la première.